Dans les lectures du jour, la première lecture n'est pas évidemment. On pourrait penser qu'elle ne nous rejoint pas beaucoup, puisque c'est l'histoire de Paul, donc c'est ce qui lui est arrivé. Néanmoins, j'étais frappé de me dire finalement. Paul a été dénoncé, il a été enchaîné, et finalement il vit ce qu'il a fait subir aux autres quand il s'appelait Saul. Ça n'est pas rapporté évidemment par Luc dans les Actes des Apôtres, mais c'est un fait en tout cas. Pouvons nous apercevoir de cela. Il a finalement le Seigneur qui lui avait dit, à Anani, je lui ferai voir ce qu'il faut souffrir pour moi. Eh bien, il se rend compte de cela, et ça peut nous rejoindre dans nos vies personnelles. Nous apercevoir que alors que nous sommes en colère ou contrarié par l'attitude des autres, de dire tiens, mais au fond, est-ce que c'est pas ce que j'ai fait subir à d'autres? Ça peut être l'occasion donc d'une prise de conscience aussi. Dans l'évangile, je dois reconnaître, j'ai pas fait beaucoup de liens avec l'évangile, me paraît pas évident. Et nous trouvons donc la finale, vraiment la fin des fins de Jean 21, donc après l'épisode d'hier, où Jésus avait donc dit à Pierre, suis-moi. Alors évidemment, on voit plusieurs sens, parce que ils sont sur la plage, donc où est-ce que va Jésus, pourquoi suis-moi, c'est un sens spirituel, il va falloir que tu me suives. Or Jésus est ressuscité, donc suivre Jésus ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pose pas mal de questions. Et Pierre se retourne. Et au fond, on peut se demander si Pierre se retourne ou bien s'il se détourne. Il regarde en arrière. Pourquoi fait-il ça? Après tout, Jésus vient de lui dire « Suis-moi ». Il y a eu un dialogue entre eux au sujet de l'amour mutuel qu'ils peuvent avoir. Jésus lui a dit « Il faut m'aimer plus pour pouvoir prendre soin de mon troupeau ». Est-ce que Pierre se retourne vers un membre particulier de ce troupeau? Est-ce que Jésus pensait à ce troupeau-là? Est-ce qu'il demandait à Pierre de s'occuper des 12 ou des 11 du coup, ou bien plutôt du troupeau de l'Église? Et en tout cas, Pierre se retourne. Est-ce qu'il se détourne? Ça peut nous rejoindre dans nos vies parce que il arrive que nous ayons des moments de relation à Dieu un peu plus intense, et très souvent c'est une préoccupation qui nous détourne, comme si nous avions à nous soucier de ce que Dieu va faire chez les autres. Alors que ce qui importe, c'est ce que Dieu fait en nous pour que nous puissions faire ce qu'il a mis en nous pour l'accomplir. Autrement dit, c'est encore un amour de préférence. Est-ce que nous préférons Dieu ou est-ce que, oui, quand même, mais enfin, il y a les autres aussi. Et là, nous rejoignons cette espèce de dualité où nous avons tendance à considérer qu'aimer Dieu et aimer le prochain, c'est pas la même chose. Ça peut même être contradictoire, un peu comme dans l'idée de la volonté. Beaucoup d'entre nous apprenons qu'au fond, il y a deux volontés, quoi. Il y a celle de Dieu et la mienne. Et il va falloir faire un deal pour que on puisse négocier. Alors qu'en fait, il n'y a pas de négociation de façon ultime. Il faut aspirer à n'avoir qu'une volonté, qui est celle de Dieu, qui devient la mienne parce que d'abord parce que c'est Jésus qui nous l'enseigne. Je ne fais pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. C'est devenu ma volonté et celle de celui qui m'a envoyé parce que j'aime. Et du coup, il n'y a plus de combat entre deux volontés. Il y a une volonté qui est heureuse d'entrer dans la volonté de l'autre parce qu'il est Dieu. Là où il peut y avoir effectivement deux volontés, c'est dans nos relations avec les êtres humains. C'est tout à fait normal, parce que ce sont des créatures. Alors que Dieu, lui, on sait qu'il ne peut pas se tromper, qu'il ne peut pas manipuler, qu'il ne peut pas abuser. Cette volonté, quand nous réalisons que notre volonté ne va pas dans le sens de ce que Dieu nous demande, ça doit nous dire « Ah, j'ai quelque chose à lâcher, je dois me détacher de quelque chose pour le motif simple que Dieu ne peut pas se tromper. » Voilà, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus, mais... La volonté de Dieu, oui, c'est ça, c'était que Pierre le suive. Donc, Pierre se retourne. Bon, il est question du disciple que Jésus aimait, j'ai déjà dit ici. Je le redis, en fait, cette expression, est-ce que ça, pour moi, ça signifie le disciple qui savait que Jésus l'aimait? Et c'était devenu sa vie, c'était devenu son identité. Il ne s'appelait plus Jean, il ne s'appelait plus... En fait, son prénom, c'était « Tu es qui ? Je suis le disciple que Jésus aimait. » C'était devenu une évidence, c'était devenu son rythme cardiaque, sa respiration. Il n'était plus qu'en relation avec l'amour de Jésus, c'était sa vie. C'est intéressant de voir que la vie chrétienne est une vie de relation de personne à personne. Je regardais hier un documentaire de Cathéo sur l'euthanasie, là, qu'on nous prépare, et il y avait un très beau témoignage d'une Caroline à la minute 45e, 44, un peu passé, sur le fait que cette femme avait découvert, grâce à sa maladie, la dépendance, et que dans cette dépendance, elle a découvert la joie de relations vraies, profondes, authentiques. Eh bien, je me disais en l'entendant, mais c'est le message chrétien. Nous sommes à l'image d'un Dieu trinitaire qui est relation du Père vers le Fils, du Fils vers le Père dans l'Esprit, qui est leur relation mutuelle, etc. C'est trois personnes. Et étant image, étant créé à l'image de ce Dieu trine, en relation qu'on appelle subsistante en théologie, eh bien, nous sommes appelés à vivre dans la relation. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Père dépend du Fils? L'expression est un peu curieuse parce qu'elle est péjorative en française, mais oui, c'est ça que ça veut dire. De fait, s'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Et s'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père. Donc, il y a une dépendance mutuelle, mais elle est amoureuse. Elle n'est pas esclavagiste, ni manipulatrice, ni que sais-je. Donc voilà, ça me paraît important, et je pense que Jean, c'est précisément ce disciple qui finalement a compris avant les autres que ce qui faisait qu'il était ce qu'il était, c'est que Jésus l'aimait. Donc je ne reviens pas plus là-dessus, et au fond, donc il y a cette discussion avec cette question de Jésus, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Alors, que t'importe. Moi j'aime bien essayer de voir ce qui est écrit là où ce n'est pas écrit. Et je vous propose, si je veux qu'il demeure le disciple que j'aime, virgule, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est-à-dire, est-ce que si je veux que ce disciple-là puisse témoigner qu'il est le fruit de mon amour, qu'il est le fruit permanent de mon amour, c'est son identité, c'est son message, c'est ce qu'il devra dire au monde. Et en fait, et ben là nous découvrons que la mission de Pierre, elle n'est pas uniquement celle-là. Je serais exagéré de dire que dans cette phrase, Jésus vient de fonder la vie érémitique. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont appelés à faire l'expérience, parfois même ces enfants, qu'ils sont le fruit permanent de l'amour de Dieu, qui sont déjà dans la louange angélique en fait, et voilà, et qui transmettent au monde mystérieusement cette vérité, mais qui sont un peu en retrait. Bon, point d'interrogation, hein, je ne sais pas du tout si c'est ça que ça veut dire. Hein. Mais voilà, et que t'importe ? Bon, il faudra aller voir hein, ce que ça peut vouloir dire, en fait, comme autre interprétation en grec, en se demander, au fond, est-ce que cette phrase a des secrets que nous ne voyons pas, c'est certain. Et la finale est assez étonnante aussi dans cet évangile. C'est ce disciple qui témoigne. Il y a toujours cette manière de... Donc celui qui savait que Jésus l'aimait. Et c'est pour ça qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit. Et nous savons. Que veut dire nous savons que son témoignage est vrai. Voilà. Donc dans cet évangile, je constate la prééminence de l'importance de l'amour de Jésus pour nous. Beaucoup plus que ce que nous pouvons faire. En fait, notre action consiste à être un réceptacle de cet amour en prenant de plus en plus conscience afin de découvrir les prévenances successives de Dieu pour nous, ininterrompues et successives. C'est peut-être cette contemplation-là à laquelle cet évangile peut nous conduire aujourd'hui. C'est un beau... Je trouve que c'est un bel objectif de méditation pour la journée avant d'entrer précisément dans cette réception de l'Esprit qui est amour lui-même et qui vient établir en nous ce règne de l'amour.